Chapitre 8. Où la fortune semble avoir été de meilleure humeur pour Jones que nous ne l'avons vu jusqu'ici. Comme il n'y a pas de potion plus salutaire que la fatigue pour provoquer au sommeil, il n'y en a guère non plus qui procure un sommeil plus profond. On peut bien dire que Jones en avait pris une très forte dose et qu'elle opéra très puissamment sur lui. Il avait déjà dormi 9 heures et aurait peut-être dormi plus longtemps s'il n'avait été réveillé par un bruit violent à la porte de sa chambre, où l'on frappait avec force en criant au meurtre. Jones sauta aussitôt de son lit et trouva le directeur de marionnettes qui s'acharnait sans miséricorde et sans modération sur les épaules et sur les côtes de son pauvre compère. Jones, plein de pitié pour la partie souffrante, s'interposa soudain entre eux et colla l'insolent vainqueur contre la muraille. Car l'homme aux marionnettes n'était pas plus en état de se défendre contre Jones que le pauvre compère ne l'avait été de résister à son maître. Mais quoique le compère fût petit et assez faible, il ne laissait pas d'être colère. Il ne se vit donc pas plutôt délivré de son ennemi qu'il se mit à l'attaquer avec la seule arme dont il se servit aussi bien que lui. Il lui lâcha d'abord une bordée consistant en grosses injures générales et en vint ensuite à quelques accusations particulières. « Que l'enfer vous saisisse, scélérat que vous êtes, » dit-il. « Non seulement c'est moi qui vous ai soutenu jusqu'ici, car c'est à moi que vous devez tout l'argent que vous gagnez, mais je vous ai encore sauvé de la potence. Vous souvenez-vous de la dame que vous vouliez dépouiller de son riche habit, pas plus tard qu'hier, dans un sentier ici derrière ? Pouvez-vous nier que vous auriez voulu la tenir seule dans un bois pour la dépouiller, pour dépouiller l'une des plus belles femmes qu'on ait jamais vues au monde ? Et tout à l'heure, vous êtes tombé sur moi et vous m'avez presque assassiné, quoique je n'eusse fait aucun mal à une fille d'aussi bonne volonté que moi, et seulement parce qu'elle m'aime mieux que vous. » Jones n'eut pas plus tôt entendu cela qu'il quitta le maître en lui faisant les plus fortes injonctions et la défense la plus positive de maltraiter davantage le compère. Puis, emmenant avec lui le pauvre malheureux dans son appartement, il sut bientôt des nouvelles de sa Sophie, que cet homme avait vu passer la veille, tandis qu'il accompagnait son maître avec son tambour. Il obtint aisément de lui qu'il viendrait lui montrer exactement l'endroit, et après avoir appelé Partridge, il se hâta de se mettre en route. Il était 8 heures avant que tout fût prêt pour son départ, car Partridge ne se pressait pas, le compte n'était pas encore réglé, et quand tout fut arrangé à cet égard, Jones ne voulut pas quitter l'auberge avant d'avoir réconcilié parfaitement le directeur des marionnettes et son compère. Quand ce dernier débat fut heureusement terminé, il partit enfin et fut conduit par le fidèle compère à l'endroit où Sophie avait passé, et après avoir libéralement récompensé son conducteur, il poursuivit sa route avec plus d'ardeur que jamais, délicieusement occupé de la manière extraordinaire dont il avait appris des nouvelles de Sophie. Partridge n'en fut pas plus tôt instruit que, d'un grand sérieux, il se mit à prophétiser et à promettre à Jones qu'il réussirait certainement dans son entreprise. Car, dit-il, deux événements de cette nature, tendant à le diriger sur les pas de sa maîtresse, n'auraient jamais eu lieu si la Providence n'avait pas enfin le dessein de les réunir. Ce fut la première fois que Jones prêta quelque attention à la doctrine superstitieuse de son compagnon. Ils n'avaient pas fait plus de 2 milles quand ils furent surpris par une violente averse, et comme ils se trouvaient en même temps en face d'un cabaret, Partridge, après les instances les plus vives, obtint que Jones y entrât pour laisser passer la pluie. La faim est une ennemie, si l'on peut l'appeler ainsi, qui tient plus du caractère anglais que du français. Car, quoique vous remportiez souvent la victoire sur elle, elle revient toujours à la charge dès qu'elle en trouve l'occasion. C'est ce qui lui arriva avec Partridge, qui ne fut pas plus tôt arrivé à la cuisine qu'il se mit à faire les mêmes questions qu'il avait faites la veille au soir. La réponse qu'il en reçut fut un excellent aloyau noir qui parut sur la table et sur lequel non seulement Partridge, mais Jones lui-même firent un très bon déjeuner, quoique ce dernier commençât à devenir inquiet en voyant que les gens de la maison ne pouvaient lui donner des nouvelles plus récentes de Sophie. Le repas fini, Jones se précipita à la porte malgré la violence de la pluie qui continuait toujours. Mais Partridge demanda avec instance un autre pot de bière et enfin, jetant les yeux sur un jeune garçon, établi auprès du feu de la cuisine où il venait d'entrer, et qui le fixait en ce moment avec la même attention, Il se retourna soudain vers Jones et s'écria « Monsieur, donnez-moi votre main. Un pot ne suffira pas à présent pour faire le tour. » Voici enfin des nouvelles de Madame Sophie qui nous arrivent. Ce garçon qui est là près du feu est le même qui a couru à cheval devant elle. Je le reconnais à mon emplâtre que je vois sur son visage. « Que le ciel vous comble de bénédictions, monsieur !» s'écria le garçon. « Assurément, c'est votre emplâtre. J'aurai toujours des raisons de me souvenir de votre bonté, car cet emplâtre m'a presque entièrement guéri. » À ces mots, Jones se leva précipitamment, et après avoir ordonné au garçon de le suivre, passa de la cuisine dans un appartement séparé, car il était si délicat, lorsqu'il s'agissait de Sophie, qu'il n'aurait jamais volontairement prononcé son nom en présence de plusieurs personnes. Et quoiqu'il eût d'abondance de cœur, comme on dit, porté un toast à sa santé, au milieu d'officiers dont il croyait impossible qu'elle fût connue, le lecteur peut se souvenir combien on eut de peine à obtenir de lui qu'il prononçât son nom de famille. Il était donc cruel, peut-être même absurde, aux yeux d'un grand nombre de lecteurs remplis de sagacité, que Jones dut principalement son infortune actuelle à un prétendu manque de délicatesse, vertu qu'il possédait au suprême degré. Car, dans la vérité, Sophie était beaucoup plus offensée de la liberté avec laquelle elle croyait, et non sans de bonnes raisons, qu'il avait parlé d'elle, que d'aucune des familiarités que, dans la circonstance où il s'était trouvé, il avait pu se permettre avec une autre femme. Et à dire vrai, je crois qu'Honora ne l'aurait jamais fait consentir à quitter Upton sans voir son cher Jones, si elle n'avait été armée de ces preuves de légèreté dans sa conduite, qui prouvent si peu de respect et sont si incompatibles avec le plus faible sentiment d'amour et de tendresse dans un cœur noble et délicat. Mais enfin, les choses étaient ainsi, et c'est ainsi que je dois les rapporter. S'il est quelque lecteur qui se trouve choqué de ce qu'elles ne paraissent pas naturelles, je n'y saurais que faire. Je dois leur rappeler que je n'écris pas un système, mais une histoire, et je ne suis point obligé d'accorder les faits avec les notions reçues de la vérité et de la nature. Mais quand cela même serait aisé, peut-être serait-il plus prudent à moi de ne pas l'entreprendre. Le fait présent, par exemple, tel que je viens de le rapporter, sans aucun commentaire, peut au premier abord offenser quelques lecteurs. Mais d'après une plus mûre réflexion, il doit plaire généralement à tous, car les sages et les gens de bien peuvent regarder ce qui est arrivé à Jones, à l'auberge d'Upton, comme une juste punition de sa coupable conduite en amour, conduite dont cette punition était la conséquence immédiate. Et les sots ainsi que les méchants pourront se complaire dans leurs vices, en se flattant au fond de leur cœur que les hommes doivent leur réputation au hasard plutôt qu'à la vertu. Les réflexions que nous serions tentés de faire ici à cet égard contrediraient peut-être également ces deux conclusions, et prouverait que ces incidents ne servent qu'à confirmer la vérité de cette doctrine grande, utile et si rarement suivie, que le but de tout cet ouvrage est d'inculquer dans les esprits et dont nous nous garderons bien de remplir les pages de notre livre par de trop fréquentes répétitions pour ne pas imiter ces orateurs vulgaires qui remplissent leurs sermons en répétant leurs textes à la fin de chaque paragraphe. Nous nous contenterons de laisser entrevoir que, quoique Sophie se fût malheureusement trompée dans son opinion sur Jones, elle avait des raisons suffisantes pour fonder cette opinion, puisque toute jeune personne dans sa situation se serait, je crois, trompée de la même manière. Je dis plus, si elle eût alors suivi son amant et fût entrée dans le cabaret au moment qu'il le quitta, elle aurait trouvé l'hôte aussi bien instruit de son nom et de ce qu'elle était que la servante de l'auberge d'Upton avait paru l'être. Car tandis que Jones questionnait tout bas le petit garçon dans un cabinet retiré, Partridge, qui n'était pas à beaucoup près si délicat, interrogeait tout haut dans la cuisine l'autre guide qui avait accompagné Mrs. Fitzpatrick. Par ces moyens, l'hôte, qui dans ces sortes d'occasions avait toujours l'oreille au guet, fut parfaitement instruit de la chute de cheval que Sophie avait faite, de la méprise concernant Jenny Cameron, et de toutes les conséquences du punch, en un mot de presque tout ce qui s'était passé à l'auberge d'où nous avons fait partir nos dames dans une voiture à 6 chevaux, la dernière fois que nous avons pris congé d'elles. Chapitre 9. Contenant peu de choses de plus que quelques observations assez singulières. Jones était resté absent pendant une bonne demi-heure quand il rentra précipitamment dans la cuisine pour demander à l'hôte qu'il lui fît savoir à l'instant ce qu'il avait à payer. Quant à Partridge, le chagrin qu'il éprouva d'être obligé de quitter le coin du feu et un verre d'excellente bière fut un peu compensé par l'assurance de ne pas voyager plus loin à pied. Car Jones, avec des arguments dorés, avait obtenu du postillon qu'il l'accompagnerait jusqu'à l'auberge où il avait conduit Sophie. Mais il n'y avait consenti qu'à la condition que l'autre postillon l'attendrait au cabaret où il se trouvait, parce que, attendu que l'hôte d'Upton était l'intime ami de l'hôte de Glanstein, il pourrait, d'un jour à l'autre, revenir aux oreilles de ce dernier que ses chevaux avaient fait double course, et que par suite on pourrait lui redemander l'argent qu'il aurait reçu de la seconde, et qu'il avait sagement le projet de mettre dans sa poche. Nous avons été obligés de rapporter cette circonstance, toute légère qu'elle peut paraître, parce qu'elle retarda considérablement le départ de M. Jones. Car l'honnêteté du second postillon était plus grande, vu le prix qu'il y mettait, et aurait en effet coûté fort cher à Jones, si Partridge, qui, comme nous l'avons dit, était un garçon subtil, ne lui avait pas adroitement donné une demi-couronne à dépenser dans ce même cabaret pour l'aider à attendre son compagnon. L'hôte n'eut pas plutôt flairé cette demi-couronne qu'il s'épanouit et débita avec force un discours si persuasif que le postillon fut bientôt vaincu et consentit à prendre une demi-couronne de plus pour attendre. Nous ne pouvons nous empêcher d'observer ici que puisqu'il y a tant de politique dans la classe la plus inférieure du peuple, les grands ont souvent trop haute opinion d'eux-mêmes pour le raffinement qu'ils mettent dans leur dissimulation, talent dans lequel ils sont fréquemment surpassés par les derniers des hommes. Les chevaux étant prêts, Jones sauta sur la selle de femme sur laquelle sa chère Sophie avait voyagé. Je dois avouer que le postillon eut la politesse de lui offrir la sienne, mais il préféra l'autre, probablement parce qu'elle était plus douce. Partridge, cependant, quoique tout aussi efféminé que Jones, ne put supporter la pensée de dégrader sa qualité d'homme. Il accepta en conséquence l'offre du postillon, et Jones montait sur la selle de Sophie, le postillon sur celle de Mrs. Honora, et Partridge, jambe de ça, jambe de là, sur le troisième cheval, se mirent en route et arrivèrent en 4 heures à l'auberge où le lecteur a déjà passé tant de temps. Partridge fut très gai pendant tout le chemin et rappelait souvent à Jones tous les présages de succès qui, depuis peu, lui avaient été si favorables, et que le lecteur le moins superstitieux doit convenir avoir été singulièrement heureux. D'ailleurs, Partridge était plus charmé de ce qui faisait l'objet de la poursuite actuelle de son compagnon qu'il ne l'avait été de le voir poursuivre la gloire. Et d'après ces mêmes présages, qui promettaient du succès à notre pédagogue, il commençait à se faire une idée nette de l'amour de Jones et de Sophie, auquel il n'avait fait jusque-là que très peu d'attention, ayant dans l'origine fort mal jugé les raisons de la fuite de Jones. Et quant à ce qui s'était passé à Upton, il avait été beaucoup trop effrayé avant et après son départ de ce lieu pour en rien conclure, sinon que le pauvre Jones était tout à fait fou. Idée qui ne s'éloignait pas du tout de l'opinion qu'il avait d'abord conçue de sa bizarrerie extraordinaire. Il pensait d'ailleurs que sa conduite en quittant Gloucester répondait parfaitement bien à tout ce qu'on lui avait dit précédemment. Quoi qu'il en soit, il était alors assez satisfait de son expédition actuelle et commençait à en concevoir une opinion plus favorable du bon sens de son ami. 3 heures venaient de sonner quand ils arrivèrent, et Jones demanda sur le champ des chevaux de poste, mais malheureusement on ne put se procurer un seul cheval dans le comté. Le lecteur ne s'en étonnera pas s'il veut réfléchir aux troubles qui régnaient alors dans tout le royaume, et notamment dans cette province où des courriers passaient et repassaient à toutes les heures du jour et de la nuit. Jones fit tout ce qu'il put pour engager son premier guide à l'escorter jusqu'à Coventry, mais il le trouva inexorable. Tandis qu'il argumentait avec lui dans la cour de l'auberge, une personne vint à lui et, le saluant par son nom, lui demanda des nouvelles de toute la respectable famille de Somersetshire. Jones, jetant les yeux sur cette personne, la reconnut aussitôt pour être M. Dowling, l'homme de loi avec lequel il avait dîné à Gloucester, et lui rendit son salut avec beaucoup de politesse. Dowling pressa très vivement M. Jones de ne pas aller plus loin ce soir-là, et appuya ses instances d'une foule d'arguments sans réplique. De ceci, entre autres, qu'il était presque nuit, que les chemins étaient très gâtés, et que sous tous les rapports, il lui conviendrait beaucoup mieux de ne partir qu'à la pointe du jour. Il en ajouta beaucoup d'autres non moins victorieux, dont une partie était déjà probablement entrée dans l'esprit de Jones. Mais comme ils avaient été alors sans effet, ils n'eurent pas plus de succès dans la bouche de M. Dowling, et Jones persista dans son dessein. Dut-il même être obligé de faire la route à pied. Quand l'homme de loi vit qu'il ne pouvait faire consentir Jones à rester, il s'occupa avec non moins de chaleur à persuader au guide de l'accompagner. Il mit en avant une foule de bons motifs pour l'engager à entreprendre ce petit voyage et termina son discours en lui disant « Croyez-vous que monsieur ne vous récompensera pas très bien de votre peine ?» Deux contre un sont un avantage partout, comme à la balle. Mais celui que cette réunion de force procure quand il s'agit de persuader et d'obtenir ce qu'on souhaite ne peut être un problème pour un observateur curieux. Car il doit souvent avoir vu que quand un père, un maître, une femme ou tout autre individu revêtu de quelque autorité ont opiniâtrement persisté dans leur refus, malgré toutes les raisons qu'une seule personne a pu leur donner, ils ont cédé ensuite à la répétition des mêmes raisons données par une seconde et troisième personne qui avait entrepris de plaider la même cause, sans même avoir pensé à l'appuyer d'aucun nouvel argument. Et c'est peut-être de là que vient l'expression de « seconder un argument » ou une motion, ce qui est d'une grande conséquence dans toutes les assemblées où l'on discute en public. De là vient aussi probablement que dans nos cours de justice, nous entendons souvent un habile homme, qui est ordinairement un huissier, répéter pendant une heure entière ce qu'a dit un autre habile homme qui vient de parler immédiatement avant lui. Au lieu de raisonner sur cela, nous continuerons, suivant notre usage ordinaire, d'en donner un exemple dans la conduite du postillon dont nous venons de parler, qui se laissa persuader par M. Dowling et promit de laisser monter encore une fois M. Jones sur la selle de femme. Mais il insista sur ce qu'on lui permit de faire d'abord donner un bon repas à ses pauvres chevaux, disant qu'ils avaient déjà fait beaucoup de chemin et n'avaient pas été ménagés en route. Cette précaution du postillon était inutile, car Jones, malgré son empressement et son impatience, en aurait donné l'ordre lui-même. Il n'était aucunement de l'opinion de ceux qui considèrent les animaux comme de pures machines, et quand ils enfoncent leurs éperons dans le ventre de leur cheval, s'imaginent que l'éperon et le cheval ne sont pas plus sensibles l'un que l'autre à la douleur. Pendant que les animaux mangeaient leur avoine, ou plutôt étaient supposés la manger, car tandis que le postillon prenait soin de lui à la cuisine, le garçon de l'auberge prenait grand soin que son avoine ne se consommât pas dans l'écurie, M. Jones, cédant aux instances de M. Dowling, l'accompagna dans sa chambre, où ils burent ensemble une bouteille de vin.